I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ground Control, le direct.
Littérature et bière glacée.
Grand Flore Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grand Flore Café par Hugues Robert.
Bonsoir à tous, très bonne année, bienvenue dans ce premier Grand Flore Café de l'année, un Grand Flore Café très spécial puisque la voix n'est pas la même que d'habitude. Je me présente, je suis Lorraine Malka, je suis journaliste littéraire et j'ai proposé à Hugues Robert, votre libraire qui anime habituellement cette émission, d'échanger les rôles pour commencer l'année et pour prolonger la saison France-Roumanie à Grand Contrôle qui se prolonge encore jusqu'au 13 janvier. Alors, il y a une quinzaine de jours, Hugues Robert nous a offert à ce même micro une introduction passionnante, très dense à l'histoire de la littérature roumaine, depuis sa naissance en 1521 jusqu'à aujourd'hui. Il se trouve que j'étais connectée, j'ai tout écouté, et comme il est connaisseur de cette littérature et que je suis pour ma part béotienne, j'ai voulu inverser les rôles, installer Hugues Robert sur le siège des invités et lui poser toutes les questions que je me pose sur cette littérature très riche et très vivante que je connais mal et qui est généralement en France assez mal connue. J'ai fait appel aussi à d'autres spécialistes, donc aux côtés d'Hugues Robert, qui je le rappelle dirige la librairie Charybde à côté d'ici dans le 12e et qui vend aussi des livres à Grand Contrôle. Nous recevons Laure Inkel, traductrice de littérature roumaine, photographe, reporter pendant 12 ans en Roumanie, Moldavie et Bulgarie, co-organisatrice de la Tournée des traducteurs, qui est un programme destiné à donner de la visibilité à la littérature roumaine traduite en français, et qui est plein d'autres choses encore, elle va nous en parler. Et nous avons aussi mobilisé par téléphone un correspondant, un spécialiste, qui s'appelle Bernard Cambouliv, enseignant en histoire, qui consacre ses recherches à la Roumanie, auteur en 2012 de « Sur les pas des écrivains roumains », et en 2016 de « Un automne avec Cioran, la sagesse de l'anxiété » chez Nicole Vaillant. Alors, donc Hugues Robert nous l'a rappelé il y a une quinzaine de jours, je le disais. Le premier livre imprimé en roumain a été imprimé en 1559. Il y a eu ensuite plusieurs grandes périodes que vous avez découpées dans votre émission, Hugues Robert, en fonction des changements historiques, des grandes figures. On va revenir dessus, mais on va surtout parler aujourd'hui dans cette émission de la littérature roumaine du XXe siècle et voir comment l'histoire, les racines de la littérature roumaine ont influencé la littérature actuelle qui est florissante. Qu'est-ce qui a été gardé ou rejeté du passé? Est-ce qu'on peut parler d'avant-garde? Est-ce qu'on peut parler de rupture? Qu'est-ce qui qualifie cette littérature? Voilà, on va chercher à mieux connaître cette littérature. On est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue à tous et merci d'être ici.
Grand Contrôle, radio libre et curieuse.
Alors j'aimerais qu'on commence, si vous voulez bien, par un tour de table pour que chacun se présente et dise son rapport personnel à la littérature roumaine. On va commencer avec vous, Laure Inkel. Enchantée. Donc j'ai dit que vous étiez traductrice du roumain, de la littérature roumaine, mais on voit aussi votre nom apparaître très régulièrement dans des revues spécialisées sur l'engagement littéraire roumain, sur beaucoup de sujets en rapport avec la littérature roumaine. Quel est votre rapport à la littérature roumaine ?
Bonsoir, je suis heureuse d'être là avec vous en ce début d'année pour parler de littérature roumaine. Effectivement, je suis engagée dans la littérature roumaine depuis un certain nombre d'années et vous m'avez posé la question de savoir quel est mon rapport, quel est le rapport personnel que j'ai avec cette littérature. En fait, le rapport qu'un traducteur entretient avec la littérature qu'il traduit, il n'est pas seulement personnel, il devient intime. Ultra intime en réalité. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué de décrire à quel point les personnages, les auteurs eux-mêmes, leur personnalité, leurs habitudes, les conversations que j'ai pu avoir avec eux se mêlent à ma vie personnelle et à mes rêves et à mon écriture. et à ma manière de vivre. C'est assez inextricable, en fait.
Vous l'avez découverte quand, cette littérature ?
J'ai découvert la littérature roumaine. Alors, je peux maintenant donner une date et même un livre. Parce que récemment, j'ai cherché dans ma bibliothèque quel était le premier livre que j'avais acheté d'un auteur roumain. Et en fait, c'est le Thé de Proust de Norman Manea, dans une vieille édition. Et ça date quand même d'une époque antédiluvienne, de l'autre siècle, 1988, si je me souviens bien. Et à l'époque, je n'imaginais pas qu'un jour, j'irais vivre en Roumanie ou travailler en Roumanie. Je n'avais pas encore passé le bac ou je venais de passer le bac. Donc voilà, c'est très ancien. Mais quand j'ai vraiment découvert la littérature roumaine, c'est lorsque, jeune journaliste, je suis partie travailler dans ce pays en 92 et que j'ai vraiment commencé à lire de la littérature.
Et aujourd'hui, vous traduisez et vous êtes grande lectrice régulière de littérature, même contemporaine roumaine, si je ne me trompe pas.
Oui, j'aime lire. D'ailleurs, je pense que si je suis devenue traductrice, c'est parce que j'étais lectrice en premier lieu. J'aimais lire. Et moi, j'essaye de me tenir au courant et je suis intéressée par ce qui est publié constamment. Et puis, voilà, je vais en Roumanie assez régulièrement et... Voilà, on connaît, j'aime fureter, je pose des questions, je réclame des trucs, je suis chiante, quoi.
Alors, on va entendre Bernard Cambouliffe qui est par téléphone avec nous. Bernard, vous nous entendez ?
Oui, parfaitement.
Bonsoir, ravi d'être avec vous.
Bonsoir, oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez un rapport plus avec la littérature roumaine classique, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire... votre rapport personnel à cette littérature ?
Oui. Alors tout d'abord, merci pour cette invitation. Ce n'est pas quelque chose de très fréquent et donc je suis très honoré d'être à la même table que Laure, qui est une grande spécialiste de cette littérature-là. Personnellement, je suis un amateur, je peux dire, pour ne pas faire de la fausse modestie, peut-être un peu éclairé, mais personnellement, je ne lis la littérature roumaine qu'en français. Je ne suis pas assez roumanophone pour la lire directement dans le texte, et c'est de la paresse de ma part, bien entendu, mais cela dit, il y a beaucoup déjà à lire, et grâce à des traductions que peut nous livrer, par exemple, Laure. Alors, mon rapport à la littérature roumaine, il date de l'ouverture de la Roumanie, de la chute de Ceausescu. C'est un moment où j'ai découvert la Roumanie, comme tout le monde, mais ça fait déjà un petit moment, donc c'est pas comme tout le monde. Mais c'est au moment où on a appris que le régime tombait, et l'été suivant, je suis allé en Roumanie. Alors on peut dire que durant toutes les années 90, j'ai fréquenté ce pays de long en large, je l'ai parcouru dans toutes les directions. J'ai été fasciné, véritablement fasciné par ce pays qui offrait, pour l'historien que je suis de formation, un terrain d'enseignement, mais somptueux, je veux dire. C'était comme si on soulevait une cloche et qu'on découvrait une histoire très ancienne, mais en réalité, je pourrais multiplier les exemples qui évoquent ça, mais ce n'est pas le but. J'ai écrit un journal de voyage qui a rendu compte de tout ça et qui s'appelle « La richesse sous les gravats ». Parce qu'en même temps, la Roumanie est pays qui était quand même très meurtri, hein, qui a été très meurtri par son histoire, mais pas seulement par le communisme, par son histoire, et mais qui possède des trésors de richesse et déjà dans sa littérature et sa littérature ancienne comme présente. Et donc j'ai eu envie à partir des années 2000 de lire les Roumains, ce qu'ils avaient à dire sur ce que j'avais découvert. Et donc j'ai découvert des auteurs classiques. C'est vrai que j'ai découvert Rebreanu, Sadoveanu, qui sont des monstres, je dirais, de littérature roumaine. Et puis j'ai continué, j'ai découvert les avant-gardes, j'ai découvert Gerasim Luka, qui est magnifique, et bien sûr Ionesco, Sioran, Iliade, jusqu'à plus récemment. Alors, j'ai levé le pied très nettement parce que je m'étais plongé, si je suis trop long, vous m'interrompez.
Non, non, non.
Mais je me suis plongé là-dedans avec passion, mais à un moment donné, j'ai eu besoin quand même de respirer sur le monde aussi, l'autre monde. J'ai donc eu besoin de lire d'autres littératures. Donc, j'ai un peu levé le pied, mais je m'étais donné un programme trop chargé qui était celui de couvrir l'ensemble de la littérature roumaine traduite en français, et ça, je ne l'ai pas mené à son terme, mais je ne désespère pas, hein. Je suis encore jeune, je suis bientôt proche de la retraite, et donc de l'enseignement, et donc je reviendrai à la littérature roumaine, comme je reviendrai à la Roumanie, que je fréquente beaucoup moins actuellement. Mais toutefois, je garde un contact en lisant encore quelques auteurs roumains, même si je suis moins... assidu pour le moment.
Oui, voilà. Et puis vous avez publié un livre sur Cioran en 2016. Oui, donc c'est...
Alors ça, c'est très personnel parce que Cioran, c'est pour moi quelqu'un qui a été une thérapie, si vous voulez. Quand on se heurte à... Mon titre, c'est La sagesse de l'anxiété. La sagesse, ça ne convient pas du tout à Cioran, mais on l'a quand même mis dans le titre. Je dis « on » parce que c'est mon éditrice qui m'a demandé ça. Mais Cioran, c'est un médicament. Pour moi, ça a été un médicament. Et
vous allez nous en parler parce que c'est rarement comme ça qu'on enfin, voilà, vous dites qu'il vous a consolé.
C'est
étonnant.
Comment
alors,
on peut dire que
on
Cioran,
y revient.
Voilà, non, c'est un médicament.
On y reviendra parce que c'est une approche originale. Hugues Robert, on aimerait aussi vous entendre. Alors, j'invite les personnes qui n'ont pas écouté l'émission il y a 20 jours, je crois, d'Hugues Robert, d'Introduction à la littérature roumaine, qui est vraiment une émission qui est un podcast stable et qui est passionnante. Est-ce que vous pouvez, Hugues Robert, nous raconter votre rapport à la littérature roumaine ?
Merci beaucoup et bonsoir. Oui, alors, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, hein, je ne suis pas du tout, moi, un spécialiste de la littérature roumaine. Hein, c'est une littérature que j'apprécie, je veux dire, enfin, pourquoi ? Enfin, c'est plus certains auteurs que la littérature en tant que telle. La littérature roumaine, moi, comme beaucoup de gens, je crois, je l'ai découvert en dévalisant, en fait, complètement au hasard la bibliothèque de mes parents, donc quand j'étais très jeune, et je suis tombé effectivement, parce que je suis assez âgé, un des très grands succès d'après-guerre en fait hors de Roumanie, qui était la 25e heure de Virgil Georgiou. Donc je crois que c'est le premier livre roumain en fait que j'ai lu. Bon, un livre qui a vieilli, on le sait, qui a été controversé, enfin son auteur, le livre lui-même. Ensuite, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages de Cioran, les travaux d'Eliade sur le... Alors, la prononciation des mots roumains, je n'ai jamais su faire, donc que Laure Inkel n'hésite pas à me reprendre.
Je ne suis pas un censeur. Hein.
Donc, les travaux d'Eliade sur le chamanisme, par exemple. Mmh. Après, il y a eu des découvertes vraiment déterminantes ces dernières années. Alors, j'ai une tendresse aussi, pas tout à fait d'adolescence, mais de jeunesse pour Panaïti Strati, j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. C'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, qui est un auteur qui n'a plus été à la mode, ça c'est le moins qu'on puisse dire pendant toute une période, et puis qui revient là, et ça fait très plaisir, mais des chocs beaucoup plus récents, bon, et ça on en parlera certainement tout à l'heure, parce que c'est notamment à Laure Inkel que l'on doit une partie de la traduction de la trilogie Orbitor, en fait, donc de Mircea Cărtărescu, qui pour moi est bien au-delà, je dirais, de la littérature roumaine. C'est une des plus grandes œuvres de la fin du XXe siècle. Hein. C'est un de ces chocs qu'on ressent jusque au fond de ses tripes, en fait, en lisant ça. C'est un truc total. Et puis, Bernard Cambouliv le mentionnait, moi, j'ai découvert très récemment également Gerasim Luka, et par un détour, en fait, assez curieux, puisque c'est en écoutant Arthur H., qui, depuis quelques années, en fait, en compagnie d'autres musiciens, interprète en fait de la poésie, la met en musique. Il avait fait un énorme travail sur Aimé Césaire et sur un certain nombre de poètes antillais. Et puis, il a fait un travail sur Gerasim Luka. Et là, je suis tombé en arrêt en me disant « Waouh, c'est extraordinaire, ça !» Enfin, j'avais jamais entendu ça. Mais bon, quelle est la part ? Il y a bien entendu les mots de Gerasim Luka. Et puis, il y a malgré tout la voix, la musique et la manière dont Arthur H. s'en part, donc ça nous éloigne un petit peu de la littérature roumaine. Mais non, la littérature roumaine, après, moi, j'ai pas de rapport intime avec la Roumanie. J'ai jamais été en tant que touriste en Roumanie, même si dans une vie précédente, parce que ça fait seulement quelques années que je suis libraire, j'ai fait tout autre chose avant ça. J'ai eu l'occasion, dans les années 99-2000, en fait, d'y passer assez fréquemment parce que le groupe industriel pour lequel je travaillais à cette époque-là avait des usines en Roumanie, en fait, et donc j'ai visité les riantes cités de Râmnicu Vâlcea, de Bistrița, de Cluj-Napoca. donc en Transylvanie et puis en Roumanie centrale, donc à l'époque où il y avait des grands combinats en fait datant de l'époque communiste, qui étaient en train de se transformer doucement en entreprise entre guillemets moderne, en ayant plus à l'intérieur d'un même combinat les boulangeries, les ateliers de réparation de chaussures, enfin qui faisaient partie de choses assez étonnantes. Mais ça, là aussi, ça nous éloigne beaucoup de la littérature roumaine.
Pas du tout. Moi, je trouve que pas du tout. Je vous dirai après pourquoi.
Bah, on vous écoute, Laure, allez-y.
Ah oui, je trouve ça assez fabuleux, cette confession que vous venez de livrer, Bernard, parce que déjà, j'aimerais savoir quel texte de quel texte de Gerasim Luka il a mis en musique. Ça m'intéresserait beaucoup. Je suis une fan absolue de Gerasim Luka. Et à l'heure actuelle, il faut vraiment aller voir au musée Pompidou à Paris, vu qu'il y a aussi une saison roumaine concernant les arts plastiques, il y a une salle entière dédiée à Gerasim Luka. Et Gerasim Luka, c'est un des premiers artistes qui a fait des présentations vidéo. Et son grand truc, le truc qui a fasciné pas mal d'autres intellectuels français à l'époque, c'était le bégaiement. Et c'est assez extraordinaire à voir. Et donc, dans cette salle de Pompidou, c'est le moment où y aller, quoi. Il y a des lettres. C'est une survivance du surréalisme, ce poète-là. Voilà. Et donc, ça ne nous éloigne pas de la littérature roumaine, parce qu'il y a un truc spécial dans cette littérature, peut-être pas seulement pour cette littérature, mais elle est très imbriquée avec la littérature française. Donc, voilà. Gerasim Luka, Arthur Age. Moi, je dis nos problèmes, c'est complètement naturel. Et alors, quand j'entends, je vous entends parler et décrire ces combinats et ces halles industrielles et ce monde un peu en décrépitude et en changement et cet univers qui passe et qui se transforme, je dis, mais c'est pas étonnant que vous soyez un fan de Mircea Cărtărescu, parce que voilà, il y a une anatomie interne, une anatomie de industrielle, architecturale, qui est complètement le domaine stylistique, le domaine personnel de Mircea Cărtărescu. Et c'est là qu'on on vit effectivement un trip littéraire très particulier et total avec cet auteur.
Alors, Bernard Cambouliv, on vous entend hocher de la tête à distance. Est-ce que vous aussi, j'imagine que vous faites le lien entre le peuple et sa littérature, puisque vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé par vous passionner pour ce pays et qu'ensuite vous avez découvert les grands auteurs classiques roumains. Qu'est-ce que vous diriez de la spécificité des grands auteurs classiques roumains? Quelle est la spécificité de cette littérature?
Les auteurs classiques, je vais y revenir, vous parlez de Rebrianou, L'Insurrection, Rasquala, des grands romans classiques qui mettent en rapport la population roumaine dans l'histoire et dans la littérature. Mais rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'il y a un lien avec la culture française. Quand vous voyez que, puisqu'on en a cité deux, c'est Gerasim Luka et Panaïtis Strati, c'est deux monstres, moi je les adore les deux. Panaïtis Strati qui vient de Braila, qui est un socialiste, qui milite pour les droits des ouvriers en Roumanie, mais qui va être considéré comme un communiste par la Roumanie, qui va venir en France, qui va écrire une œuvre somptueuse, mais qui va être traité par les communistes français d'agents de la Sigurens. C'est un homme libre et son œuvre transpire la liberté, c'est formidable. Gerasim Luka, il faut savoir Panaïtis Strati a écrit en français son œuvre. Gerasim Luka, c'est le père du surréalisme roumain avec Gelu Naum. Et il a commencé à écrire en roumain. Et puis il y a des textes qui ont été retravaillés ensuite en français. Le poème Passionnément, qui est le poème donc justement où il fait intervenir le bégaiement dont parlait Laure, a été, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, a été écrit d'abord en roumain, puis retravaillé en français. Donc il y a un lien très profond entre nos deux mondes. Ensuite, les auteurs classiques, pourquoi j'aime Rebrianou, c'est parce que c'est un homme, un écrivain très méticuleux déjà, et qui a brossé des fresques tout à fait révélatrices de ce qu'était la ruralité roumaine, je pense. Il a parlé du monde urbain, peut-être un peu moins brillamment d'ailleurs, mais je trouve que ces romans Ion et Rascoa, donc la révolte, l'insurrection qui fait référence à l'insurrection de 1907, une grande révolte paysanne, elle est formidable. Je ne vous prendrai qu'un exemple. Quand il dit, par exemple, qu'il met en scène les paysans qui sont dans la souffrance, et il met en scène les autorités, alors le préfet, le maire, etc., et que ces gens-là, dans la bouche de Rebrianou, disent par la voix de Rebrianou, disent que oui, la misère c'est une chose, mais il faut d'abord l'ordre. Ça permet de comprendre beaucoup de choses de l'abandon dans lequel ont été laissées les populations roumaines pendant très très longtemps. Pour moi, c'est ça. Et ce que j'aime dans la Roumanie et dans une certaine littérature roumaine, c'est de sentir ce désastre en quelque sorte, mais qui a été transformé en une forme d'art. Les Roumains sont Ionesco, Urmuz, enfin bon, beaucoup d'autres sont à l'origine de ce que l'on a appelé l'absurde et un certain rapport ironique à la vie. Moi, j'aime beaucoup ça, vous voyez, et je fais le lien entre les deux. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette littérature.
Et aussi avec cet abandon justement de la langue roumaine pour le français, donc qui concerne oui, les auteurs dont vous avez parlé, Sioran, oui. Ionesco, oui, c'est... Oui. Sioran disait que c'était une langue, que le roumain était une syntaxe débraillé, d'une raideur inabordable, trop distinguée à mon gré, trop noble.
Oui, absolument. Sioran, quand il est passé au français pour écrire le précis de décomposition, a dit qu'il s'était imposé une camisole de force, alors qu'il comparait la langue roumaine plus poétique, mais débraillée, vous voyez, mais c'était un débraillé poétique. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, et on parlera peut-être de littérature contemporaine par la suite, mais chez une auteure, comme je cherche son nom, mais j'ai mes livres sur mon bureau parce qu'il fallait que je me rappelle des noms, hein, Irina Teodorescu, La malédiction du bandit moustachu, j'ai retrouvé un balancement roumain dans une langue française, vous voyez, parce qu'elle l'a écrit en français, ce roman-là, et c'est beau, ce balancement entre une forme de débraillé qui n'a pas le classicisme de la langue française, mais qui, en même temps, est plein de poésie. Populaire.
Alors, c'est passionnant parce que je voulais justement qu'on éclaire un peu la littérature actuelle avec la littérature plus ancienne. On va juste un petit peu rester sur Sioran. Vous allez nous dire un petit peu ce qui vous a amené à voir chez Sioran une consolation, une aide pour sortir de la dépression, hein, vous dites.
C'est ça. Si vous voulez, c'est ça. Bon, moi, je ne sais pas, je ne vais pas raconter ma vie, mais on est tous confrontés à des moments peut-être difficiles dans la vie, plus ou moins. Et j'étais dans un de ces moments-là, un peu difficile, on va dire, et ce n'est même pas l'œuvre que j'ai lue, enfin, l'œuvre, j'en ai lu une grande partie, mais ce sont les cahiers. Dans les cahiers, alors que j'étais au fond du trou, j'ai jubilé, si vous voulez, parce que je trouvais quelqu'un, un frère, en quelque sorte, et qui mettait un nom sur ce qui le faisait souffrir. Et du coup, après, j'ai retrouvé dans son œuvre, évidemment, des choses mieux écrites et poétisées, sur les cimes du désespoir,
et Bernard,
qui était son premier livre en roumain, et dans le précis de décomposition, qui est son premier livre en français.
Et Bernard, j'adore ce que vous dites. Vous savez, il y a une citation, j'espère que je m'en souviens bien, je crois que je l'ai mise sur mon blog, c'est « La grammaire est le meilleur remède contre la mélancolie ».
Oui.
Il a bien écrit ça. Voilà.
Oui, c'est possible, oui. Je ne sais pas, exactement.
Oui, si, mais j'adore ça.
Ouais. Alors, pour répondre vraiment à la question qui est posée, en quoi il est un médicament pour moi, c'est qu'il appelle un chat un chat. qui a fait une dépression sera toujours dans la dépression. Et il va même plus loin. La dépression est le, comment dirais-je, l'état naturel de l'homme. Et moi, ça, j'y crois beaucoup. Parce que pour lui, il n'y a pas de solution à la vie. Il faut la vivre. Il n'a jamais appelé au suicide. Il a dit que l'idée du suicide était pour lui une consolation parce qu'il savait que si c'était trop important, la souffrance, il pouvait toujours y passer par là. Il ne l'a jamais fait. Il est mort à 84 ans. Mais au contraire, en appelant un chat, par exemple, cette phrase que j'ai en mémoire et que je vais vous citer là, c'est « Nous n'avons affaire qu'à des vérités irrespirables ou des supercheries salutaires. » Voilà. Dès lors que vous comprenez que la vie, c'est une supercherie salutaire, au sens que elle est très difficile à vivre dans l'absolu, vous arrivez à relativiser et du coup, vous vivez mieux. Ouais, il me semble. C'est comme ça que je lis Sioran. Je ne le lis pas autrement et ce n'est pas une approche philosophique, ce n'est pas une approche théologique, c'est une approche très personnelle, voilà, que j'ai voulu la plus humaine possible. Et voilà, j'en ai fait un petit bouquin sans prétention qui témoigne de ça seulement. Et alors Sioran, évidemment, je n'oublie pas qu'il a tenu des propos antisémites, que c'est même quelqu'un sans doute que dans le quotidien je ne fréquenterai pas, je n'aurais pas fréquenté parce que je n'ai pas les vraisemblablement je n'ai pas les mêmes idées politiques que lui. Mais cela dit, le lire, c'est comme Céline. Moi, je suis un grand lecteur de Céline et certainement que c'est quelqu'un qui était infréquentable. Mais cela dit, Sioran est quelqu'un qui est pour moi une grande richesse. Il n'est pas le seul. Mais toute cette... Et d'ailleurs, c'est plus un poète qu'autre chose. Il faut le lire. Il y a des phrases somptueuses, mais magnifiques. Je ne vais pas vous les citer, mais il n'y a qu'à lire. Il n'y a qu'à lire les aphorismes. Même dans les cahiers, il y a des choses magnifiques. Voilà. Je me passionne un peu là. Hein.
Alors, non, mais vous avez bien raison. Le livre, donc, votre livre s'appelle Un automne avec Sioran, la sagesse de, de l'anxiété chez Nicole Vaillant, je rappelle. Laure et Hugues, quelle est votre réaction à ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Sioran est un auteur qui peut faire du bien?
Oui, personnellement, je suis un peu de l'avis de Bernard, dans le sens où il est souvent assez incompris. On s'imagine que c'est quelqu'un de triste, or c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de rigoler. Tous ses amis en témoignent à longueur de, voilà, aussi bien Ionesco que d'autres. Et il y a un très joli petit livre, il y a une seule photographe, je pense, qui a réussi, c'est Irmélie Jung. Elle a réussi des magnifiques photos de Sioran riant. Elle est parvenue à entrer dans son intimité de telle manière qu'on le voit rire. Et là, le profond Sioran jubilatoire et la jubilation des mots qui choquent et qui... voilà, puisqu'il a porté le couteau dans la plaie. Hein, c'est ce que dit en fait Bernard Cambolive, là aussi. Hein, donc de cette manière-là, il est très salutaire. Mais un petit peu oublié.
Jubilation du désespoir.
Exactement.
Hugues ?
Oui, je crois que Sioran, c'est vrai que quand on repense ne serait-ce qu'au titre de ses principaux ouvrages, c'est vrai que De l'inconvénient d'être né, Précis de décomposition, Syllogisme de l'amertume, ça fait un petit peu peur. Et pourtant, je crois que c'est Enzelsberger qui disait ça, pas à propos de Sioran, mais de façon plus générale, que dans le pessimisme radical, le pessimisme philosophique, c'est vrai qu'il y a aussi un formidable exercice de lucidité, donc qui n'a rien de déprimant en réalité. Donc je rejoins tout à fait moi ce que disent Bernard Cambolive et Lorinkel. Paradoxalement, et malgré des titres qui effectivement incitent à plonger dans le noir et dans la noirceur, en réalité il y a toute une composante alors joyeuse est peut-être pas le terme, mais en tout cas oui, avec une espèce d'optimisme paradoxal qui trouve sa source dans cette lucidité, dans cette terrible justesse.
Qui appelle un chat, comme disait Bernard.
Oui, tout à fait. Et après, moi, je suis vraiment fasciné par ces écrivains, et là, on en a cité plusieurs, et c'est vrai que le rapport entre la Roumanie et la France y est certainement pour quelque chose. Hein, le fait que ce sont des langues romanes, etc., que c'est le seul pays de l'Est, en fait, à avoir une langue romane, mais je suis quand même fasciné par ces écrivains qui, effectivement, que ça soit par... pur volontarisme ou que ça soit par accident de vie, l'exil, enfin des choix politiques, etc., mais qui arrivent à changer de langue et à être parfaitement à l'aise, en fait, dans leur langue natale et dans une langue qui est quand même une deuxième langue, hein, même s'ils la pratiquent. Et je crois que c'est Kundera qui en parlait, évidemment, lui, à propos du français, et en partant d'une langue slave, cette fois du tchèque, hein, qui ouvre aussi cette perspective. Et c'est vrai qu'on fait le choix, hein, de parler de littérature roumaine, là. Mais chaque littérature nationale, quelle qu'elle soit, est toujours à la fois une littérature nationale et puis une composante de la littérature en général. Et beaucoup de ces auteurs nous le démontrent, je pense. Mircea Cărtărescu, Émile Sioran, Gherazim Luca sont certes des auteurs roumains, mais c'est surtout des grands auteurs. Et qui transcendent les frontières, pas seulement par la langue, en fait, mais de bien des façons. Et ça, je trouve ça particulièrement fascinant, tout en évidemment en étant complètement nourri par l'histoire de la Roumanie, par les paysages de la Roumanie le cas échéant, enfin peut-être moins pour Sioran parce qu'il n'y a pas vraiment de composante, enfin, en tout cas dans mon souvenir.
Non, c'était pas du genre à faire des descriptions des montagnes et des pâquerettes.
Paysage intérieur plutôt. Alors, Laure Inkel, je le disais, vous participez régulièrement à des études publiées dans des revues spécialisées d'histoire de pays de l'Est ou des études comparatives Est-Ouest autour de la littérature et le communisme, la littérature d'engagement. Comment vous définiriez la littérature roumaine avant et après la chute du mur de Berlin ? Il y a vraiment eu un changement ?
Évidemment, quand on écrit dans un pays et que nos écrits, avant d'être publiés, sont soumis au regard d'un censeur, il est bien clair que le jour où ce censeur n'existe plus, on se retrouve devant un choc. Ça, c'est une chose très intéressante qui est analysée et décrite et expliqué par plusieurs auteurs qui ont vécu cette période-là. La plupart des auteurs actuellement en vie et en activité. À la fois un désarroi, l'afflux de la liberté, c'est une responsabilité nouvelle qui, pour l'écrivain, demande une analyse particulière. C'est quand même un changement de paradigme, c'est un changement d'histoire, c'est un changement personnel. C'est parfois un changement de vocabulaire, puisque, bien entendu, les censeurs sont toujours des butors. Et donc, comme le dit Stéphane Agopian, un auteur que j'aime beaucoup, ou comme l'explique aussi Anna Blandiana, l'auteur culte, la romancière et la poétesse culte roumaine, que j'adore également, ou Gabriela Dameșteanu et d'autres encore... les censeurs étant des butors, ils se limitent bien entendu d'abord à des listes stupides de mots interdits, mais bien entendu que la censure allait bien au-delà. Donc la littérature a changé, elle a changé de thème, elle a changé de manière de voir le monde. Voilà. Bien sûr, les personnalités ne changent pas, donc c'est des évolutions, c'est sur du long terme. Ce qui a été intéressant dans la littérature roumaine après 90, c'est qu'il y a, eu un moment de digestion assez longue a été nécessaire. Et ça s'est vu, puisque les livres sont aussi, donc, leur nature, c'est d'être édités. Et donc ça s'est vu dans un changement au plan éditorial en Roumanie. Et tout le monde s'accorde pour reconnaître que l'apparition aux alentours de 2004, 2003, 2005 d'une nouvelle collection dans la maison d'édition Polyrom s'appelle Ego Prose. Déjà, vous voyez, dans le terme dans le titre de la collection, il y a ego. Déjà, on se permet de se mettre en avant. Ça dit quelque chose de ce que cette littérature, de ce que cette maison d'édition va proposer. Ça a été un changement. D'un coup, on a parlé de ce qu'on appelle la transition. La transition, ça veut dire la transition vers la liberté, la transition vers une nouvelle économie, une transition sociétale, en quelque sorte, en réalité. Et donc, c'est là que sont apparus des écrivains qui sont aujourd'hui dans la pleine maturité de leur écriture, comme Dan Lungu, qui est paru en France, comme Lucian Dan Teodorovici, comme Lazarescu et comme d'autres encore. Voilà.
Donc si je comprends bien, autour des années 90, il y a eu une pause, un silence, un moment de digestion, comme vous disiez, et c'est à partir de 2004-2005 qu'on voit un nouveau souffle émerger et qu'on peut parler vraiment de cette, un peu ce que certains appellent la nouvelle littérature.
Oui, il y a un moment de sidération et un moment aussi de préoccupation politique. Là, la personne, l'écrivain qui a peut-être le mieux raconté ça, c'est Gabriela Adamistanu, qui était parfaitement bien placée pour ça, puisqu'elle était romancière, déjà publiée avant 1989, critique littéraire. Et d'un coup, en 89, elle a abandonné l'écriture pendant un certain nombre d'années et elle s'est plongée dans la lutte politique. Elle a pris en charge les colonnes de la très célèbre revue hebdomadaire 22. Et voilà, elle s'est, voilà, quand on se plonge corps et âme dans la lutte politique et dans la lutte citoyenne, et on s'absente un petit peu de soi-même et on s'absente de son écriture. Ensuite, elle y est revenue, puisque c'est une romancière en pleine possession de ses moyens et avec une œuvre en plein développement. Voilà, ça, vous voyez, c'est... Et puis alors, il y a aussi, après 89, il fallait aussi publier ce qui n'avait pas été publié. Voilà, donc il y a eu... Et puis, il faut se remettre dans le contexte. Imaginez, en 89-90, ce que c'était les livres, dans quelles conditions matérielles ils apparaissaient sur le marché. Si on veut les conserver dans les bibliothèques, il faut les mettre dans des conditions des gros métiers particulières, parce que ils sont poussiéreux, ils sont dans un papier de tellement mauvaise qualité qu'ils se délitent. J'en ai quelques-uns à la maison, je pense que dans 20 ans, ils n'existeront plus. Et c'était un monde en plein changement. Je veux dire, il fallait tout réinventer. Il faut bien imaginer que dans ces pays qui sont passés du communisme au libéralisme et même à l'ultralibéralisme, il fallait tout refaire, tout changer. Voilà. Donc la littérature qui est témoignage du monde, bien entendu, a pris tout ça en route. Voilà. Bon, c'est difficile de dire précisément, voilà, à partir de tel moment, les thèmes changent de telle manière.
D'autant qu'on est encore dedans, j'imagine, ben parce oui. que les auteurs actuels dont vous parlez ont vécu l'avant et après, souvent,
oui.
le communisme.
Ben oui, ça, c'est pas, parfois on nous fait le reproche en disant, la littérature roumaine, elle parle que de la dictature. Bon, ben, c'est faux, mais on peut pas. Déjà, c'est faux, voilà. Et ensuite, on ne peut pas éliminer son histoire. Je veux dire, ça fait partie de soi et ça fait partie de sa littérature. Je veux dire, quel sens ça a aujourd'hui de devenir un écrivain et de se mettre à parler seulement, je sais pas moi, du tourisme en Thaïlande. On peut pas faire son œuvre littéraire sous le tourisme en Thaïlande en taisant complètement son histoire personnelle.
Hugues Robert, est-ce que dans votre librairie, vous avez senti ce renouvellement de la littérature roumaine dû au fait qu'elle soit démocratique ?
Honnêtement, je n'exerce pas depuis suffisamment longtemps en fait, ce métier pour pouvoir me prononcer sur ça, mais je me permettrais en fait, de dire qu'à travers une seule œuvre, et après vous avez pensé que je suis complètement obsessionnel, hein, parce que je vais revenir sur Mircea Cărtărescu. Cette œuvre, enfin, qui est énorme hein, quand même, c'est 1600 pages, 3 tomes. Je pense qu'on peut à bon droit la comparer, pour pas mal de raisons, en fait, à une forme de à la recherche du temps perdu, au moins aussi rusée, au moins aussi subtile, hein, mais qui, pour moi, est une métaphore à part entière à la fois de l'histoire de la Roumanie contemporaine et de la littérature roumaine elle-même. Et je pense que c'est dans l'art de Cărtărescu, qui est gigantesque hein, et qui a une sorte de génie mystificateur en plus, c'est-à-dire qu'il adore cacher des choses à l'intérieur des choses, pas par malice, mais parce que c'est... Mais il y a vraiment une question de... Quand on lit les 3 tomes, qui sont vraiment des tomes indépendants, parce qu'il y a une forme de palimpseste, d'une certaine façon. C'est que quand on lit le premier, dont le centre de gravité est quelque part entre les années 30 et les années 1950, qu'on parle beaucoup de la guerre mondiale, on le mentionnait tout à l'heure, bien avant en fait, l'avènement du communisme en...
en Roumanie et de la dictature, il y a eu cette période en fait de l'avant-guerre, avec justement, c'est pas complètement par hasard qu'un bon nombre d'intellectuels roumains ont eu ensuite ont été critiqués pour des engagements qui étaient effectivement entre droite conservatrice et extrême droite fascisante, hein, pour un certain nombre d'entre eux, plus les questions d'antisémitisme, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup imprégné d'ores et déjà. Et Cărtărescu, évidemment, ne fait pas du tout l'impasse sur ça. Donc on parle, on avance jusqu'aux années 50. Et ensuite, il y a un deuxième tome, donc L'œil en feu, qui lui prétend avoir son centre de gravité dans les années 60-70, mais qui en fait fait déjà une première relecture de cet héritage. Et quand on arrive au troisième et dernier tome, celui qu'a traduit Laure Inkel, L'aile tatouée, donc qui théoriquement parle effectivement du moment de la chute de Ceausescu, c'est là que ça se passe. Et en même temps, on relie une troisième fois la Deuxième Guerre mondiale, ou une deuxième fois la dictature communiste, et toutes les choses en fait reprennent un sens différent. C'est-à-dire que le présent vient éclairer le passé, et donc évidemment c'est totalement présent, cette dictature. Et je rejoins tout à fait ce que disait Laure Inkel, on ne va pas demander à une littérature nationale, à des romanciers, même jeunes, d'ignorer quelque chose qui a une telle importance pour le pays au cours des 50 ou 60 dernières années. Ensuite, et ça, je pense que ça, c'est l'art des romanciers et des romancières, c'est d'utiliser ce matériau pour faire autre chose. Et là, je crois que en effet, les noms que mentionnait Laure Inkel, il y a une floraison depuis une quinzaine d'années, hein, de choses où effectivement il y a d'un seul coup les perspectives qui s'ouvrent. Il y a aussi des questions qui n'est pas propre à la Roumanie, mais qui est pour de nombreux pays. Il y a des questions d'accès aussi beaucoup plus facile à l'ensemble de la littérature étrangère, qu'elle soit traduite en roumain, en anglais, en français, etc. Il y a d'un seul coup un bouillon de culture qui se met à foisonner. Et ça, oui, je pense qu'on le ressent. Enfin, il y a un travail de pionniers et de pionnières qui sont sans arrêt en alerte, justement, pour faire découvrir à des éditeurs français, et donc à des lecteurs ensuite, ce qui se fait en Roumanie aujourd'hui, en ce moment même, quoi. Et c'est là qu'il y a vraiment un travail de passeur qui est plus de la moitié en fait de ce que font les traducteurs ou les traductrices exemplaires qui sont des explorateurs en fait comme Laure Inkel.
Oui, c'est vrai. Alors je ferai une toute petite parenthèse. Il y a un exemple vraiment éclairant d'auteur jeune, donc qui n'a pas connu le fin fond de la dictature stalinienne, hein, l'époque de Gheorghiu-Dej, et puis ensuite le début de Ceausescu, etc. Il est né en 73 ou 77 de mémoire, c'est Lucian Dan Teodorovitch. Il a écrit un magnifique ouvrage, un roman qui s'appelle « L'histoire de Bruno Mattei », dont on m'a encore reparlé récemment parce que des lecteurs de Grande-Bretagne, de Suisse et du Portugal m'ont envoyé des mails en me disant « Mais pourquoi on n'a pas entendu parler de ce livre en français ?» C'est extraordinaire. C'est basé à partir d'une histoire de marionnettiste, on a une parabole extraordinaire sur l'enfermement, l'équilibre personnel que l'on doit garder pour survivre dans un espace concentrationnaire. Et cet homme-là, hein, qui a pas vécu ça, on dirait que c'est écrit par quelqu'un qui l'a vécu dans ses tripes. Et l'histoire de Bruno Mattei, écrit par Lucian Dan Teodorovitch. Et alors, les lecteurs parisiens ont la chance suivante, c'est que le 19, il sera à Paris. Donc, il faut s'informer un petit peu et voir, il va être présent pour une rencontre dans une bibliothèque parisienne, dans le 15e, à la bibliothèque Tillion.
19 janvier.
19 janvier.
On le note. Oui. Alors justement, Lucian Dan Teodorovitch avait été interviewé en 2013, à cette époque, cette année-là, on parlait beaucoup de littérature roumaine, puisque la Roumanie était invitée d'honneur au Salon du Livre de Paris. Et il y avait eu une enquête en 2013 à cette occasion par Le Monde qui avait interrogé cet auteur. Et cet auteur qui est aussi éditeur, disait qu'il sentait qu'on était en train de vivre une période extrêmement importante dans la littérature roumaine et aussi dans le cinéma roumain. Il disait qu'il y avait vraiment un changement, une transition, quelque chose qui était une période aussi importante que dans l'entre-deux-guerres pour la société roumaine, que il sentait qu'on vivait quelque chose de très important et que ça allait être, dans les années à venir, une grande surprise pour l'Occident.
Bah oui, il a raison. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît la nouvelle vague du cinéma roumain. Là, cet hiver, c'est vrai que c'est un peu l'occasion, un peu partout en France, il y a des rétrospectives, on peut voir des films roumains. C'est pas du tout... c'est un peu sorti de l'exceptionnel. Et puis, il y a eu des réalisateurs roumains primés à Cannes. Ils sont régulièrement primés à Berlin. L'Ours d'or et l'Ours d'argent, ça, ils en ont pléthore. Donc oui, ça fonctionne. Et c'est tout à fait en connexion avec la littérature des entre guillemets jeunes, parce que maintenant ils commencent à avoir dans les 45-50 ans, mais on est encore jeune à cet âge-là. Et surtout, ils ont commencé à écrire après 89. Donc et ils sont en vraiment en connexion. Et d'ailleurs, un des très bons exemples, c'est que, par exemple, Radulescu, j'ai son nom, Razvan Radulescu, qui est publié chez Ulma, il est aussi scénariste. Florin Lazarescu, qui a été publié au CIRT avec un de ses romans, eh bien, il est aussi auteur de scénarios. Voilà, donc, il y a des connexions très claires entre les deux arts.
Alors ça, c'est pour ce qui est de la littérature roumaine à l'étranger, particulièrement en France. En revanche, dans cette même enquête, il y avait une réserve qui était émise et puis une interrogation que j'ai trouvée intéressante. On se demandait dans cette enquête si la littérature roumaine, en devenant florissante et plus démocratique, perdait de sa noblesse, puisque donc, en étant plus dissidente, est-ce qu'elle perdait de sa noblesse? Et la question était posée parce que les Roumains, apparemment, ne lisent... lisent très peu de littérature roumaine et lisent surtout des écrivains étrangers. Est-ce que en allant régulièrement en Roumanie, Laure Hinkel, vous avez une idée de...
Alors, ce qui est certain, c'est que les Roumains adorent la littérature étrangère, particulièrement la littérature française, qui est très traduite très rapidement en roumain, voilà, par les collègues traducteurs en Roumanie, qui font un travail de fourmi, très mal rétribué et très important. Mais bon, moi, je ne sais pas du tout si les lecteurs roumains lisent moins que les lecteurs français ou plus.
À cette époque-là, on disait 90% des livres en Roumanie sont des traductions. Je sais pas, je n'ai qu'une source pour ce chiffre, je l'avance quand même.
Oui, j'exerce mon droit de réserve, je ne sais pas, ça me paraît beaucoup, mais en tout cas, Lucian Todorović effectivement est bien placé, puisqu'il est aussi éditeur chez Polyrom et découvreur de nouveaux talents, ça oui, oui, oui.
Bernard Cambouli, vous êtes toujours avec nous ?
Toujours là et très attentif, je n'interviens pas, mais j'entends bien le livre de Lucian Todorović est là sur mon bureau. Je l'ai lu en son temps et comme Laure, je l'ai trouvé tout à fait fabuleux pour ce qu'il raconte de la répression. C'est un témoignage de seconde main, mais pas en termes péjoratifs. C'est quelqu'un qui ne l'a pas vécu et qui la rebrasse, cette histoire-là. Alors certains vont peut-être dire, comme Sioran qui est trop noir, qu'il faut, il faut oublier. Non, moi je crois que si la Roumanie veut dépasser la thématique de son passé sombre, il faudra qu'elle le traite avec honnêteté et qu'elle établisse les responsabilités parce qu'elles n'ont toujours pas été établies dans ce pays. Et ce pays ne va pas très bien malgré tout, on le voit bien aujourd'hui avec son entrée dans l'Europe qui est sujette à caution, avec des héritiers de la Securitate qui gouvernent ce pays. Eh bien, on n'a pas traité cette histoire-là. Et je pense que quelque part, c'est le rôle des écrivains aussi de faire la lumière sur ce qui n'a pas été, d'établir des responsabilités. Alors, elle n'a pas à s'ériger en juge, mais il faut amener le pays à faire ce travail. Et je pense qu'elle a ce rôle-là. Alors, pour en revenir, puisque finalement, vous êtes inquiète par rapport à ma connaissance de la littérature tout à fait contemporaine, et vous avez raison.
Mais, non, c'est vous qui me disiez de ne pas trop vous interroger là-dessus, mais j'ai bien compris que vous pouviez nous en parler très bien.
Je lisais moins par rapport à Laure, c'est clair que je la connais beaucoup moins. Et d'ailleurs, ce que dit Hugues va me donner envie de relire Cartarescu parce que je ne l'ai pas trop fini. Mais ça me permet de dire que au moment charnière de la transition, vous voyez, il y avait une écriture avant qui était terriblement lourdes quand même. Moi, j'ai en tête des auteurs des années 80 comme Augustin Buzura. J'ai peiné à lire ces grosses sommes textuelles, mais il y avait des choses dedans. Il y avait quand même déjà un regard très, très affirmé sur la dictature, etc. Mais il fallait contourner tout ça. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu, Augustin Buzura, s'il écrit encore, etc. Et là, il y a deux titres, Chemin de cendre et puis un autre, Requiem pour des salauds, je crois. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Mais c'était dur à lire. Et puis, des gens comme... qui ont été cités, Anna Blandiana, bien sûr, Adam Echtehanou, etc. Ce sont des gens qui sont charnières, effectivement, qui sont passés du... Bon, Blandiana, pas trop, parce qu'elle est poète, mais Adam Echtehanou, c'était quand même du texte dense. Il y a plein d'auteurs comme ça. Ça caractérisait une certaine littérature roumaine qui était un peu dure à avaler, quand même. Et puis, évidemment, forcément, après, la liberté a permis peut-être un peu moins de textualité, un peu plus de fond, je dirais, voilà. Et j'ai vécu ça. Et puis alors, je vais citer une jeune auteure, je suis tombé dessus parce que là, je prends des livres quand j'en vois comme ça, et je reste quand même un peu en contact, c'est Adina Rossetti. Alors je ne sais pas si c'est Laure qui l'a traduite.
Non, mais, c'est Fanny Chartres.
Ah oui. Eh bien, moi, j'ai adoré son bouquin, Deadline, oui. Ça s'appelle. Pourquoi ? Parce que justement, c'est une toute jeune, elle est née en 79. Elle met en scène un personnage qui, sous la dictature, était un mendiant, un rejeté de la dictature, et donc il était un marginal, voilà. Mais il n'a pas été moins bien reçu dans l'ère capitaliste qui a suivi, puisque il a été rejeté parce que, ne cautionnant pas les valeurs de l'argent roi, du travail roi, etc. Et j'ai trouvé une lucidité, une analyse très fine chez cet auteur qui m'a vraiment enthousiasmé.
Oui, et c'est puisque... un bon petit livre, c'est vrai. Oui.
Hein, il m'a semblé, moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Je ne sais pas si elle a réécrit des choses, c'était en 2010 ou 2011,
non.
Ça, mais
non.
Voilà.
Mais c'est vrai que c'est intéressant sur ces nouveaux, c'est le monde du travail, puisqu'en fait, le thème principal, c'est le burn-out, du personnage principal.
Donc, Adina Rossetti, le titre du livre ?
Deadline.
Deadline, très bien. Deadline. Est-ce que c'est votre recommandation ? Parce que je vous ai demandé à chacun de venir avec une recommandation littéraire ancienne ou contemporaine. Est-ce que c'est votre recommandation ou est-ce que vous avez un autre livre à nous recommander?
On peut recommander celui-là, on peut recommander ce qu'a dit Laure, l'histoire de Bruno Mattei. D'ailleurs, on devrait parler un peu des maisons d'édition. Il y a quelques maisons d'édition qui font du très bon travail en France, j'entends, pour publier la littérature roumaine.
Oui.
Gaïa, Les Sirtes, quelques autres. Que Laure connaît mieux que moi, mais il y a vraiment du bon travail. Je voudrais citer aussi il y a des Roumains et des Roumaines surtout. Il y a pas mal de femmes dans la littérature roumaine. Ça, Laure pourrait nous préciser ça, mais qui écrivent depuis la France et en français. C'est Irina Teodorescu dont on a parlé. Il y a eu un très bon bouquin, et là je pourrais le recommander aussi, de quelqu'un qui vit à Gap, qui est passé au français, qui a écrit Terre des affranchis. Toujours chez Gaïa d'ailleurs, oui. Liliana Lazare. Et franchement, ce bouquin, il est d'une poésie, il est un peu complexe parce qu'on navigue dans le temps sur la dictature, sur l'après, mais le personnage central, c'est la forêt magique, en quelque sorte.
Mais vous avez remarqué, pardon, je ne veux pas vous couper. Pardon,
il y a une grande poésie dans ce roman, voilà, encore un auteur. Son second a été moins réussi, je trouve, mais celui-là était vraiment très bien, ouais.
Mais vous avez remarqué, la littérature, ça demande de se laisser emporter. Ouais. Donc, Gabriela de Mechtehanou, elle a écrit des magnifiques sagas. Ce sont des livres de fleuves sur des périodes historiques avec des personnages de femmes qui sont très beaux. Ouais. Et donc, ça demande à se laisser porter un petit peu. Mais comme la plupart des ouvrages roumains. Je peux vous donner ma recommandation à moi ?
On vous écoute.
Alors, je pense que 2019, c'est l'année mondiale de Mircea Cărtărescu. Son dernier roman, après sa trilogie dont la publication s'est étalée sur plus de 10 ans en France, eh bien, il a publié il y a quelques années, donc en 2015 ou 2016, un très bel ouvrage qui s'appelle Solénoïde. Il est en train d'être traduit dans toutes les langues européennes. Je pense que mon collègue italien vient de finir et donc ça sortira en Italie aussi bientôt. Et c'est pour la rentrée littéraire de septembre chez Noir sur Blanc. son nouvel éditeur. Donc c'est à suivre, le nouveau Cartarescu, la nouvelle occasion de devenir fan. Voilà, c'est chez Noir sur Blanc et ça s'appellera Solénoïde.
Une grande nouvelle, Hugues ?
Bah oui, bon, moi, il n'y a pas de mystère là. Je pense que j'ai un peu dévoilé déjà ma recommandation, mais donc ça sera également bien chez Cartarescu. Enfin, c'est pas le seul, mais et d'autant plus qu'il faudrait que toutes les auditrices et les auditeurs se mobilisent pour envoyer des mails au groupe Gallimard pour exiger la réimpression sans attendre de Orbitor, le tome 1 en fait, qui est pour l'instant est épuisé. Donc L'œil en feu et L'aile tatouée, donc eux sont bien disponibles dans la collection historique et d'ailleurs de chez De Noël. Mais Orbitor, pour l'instant, n'est pas disponible. Et c'est terrible, parce que c'est vraiment une œuvre qui mérite de s'y plonger, de s'y replonger. Enfin, c'est magnifique. Et pour pas qu'on s'imagine qu'il n'y a que Mircea Cărtărescu, on l'a mentionné tout à l'heure, un choc, enfin, pour moi, et je pense bien entendu, c'est d'une autre génération, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus ancien, mais qui est Gerasim Luca, parce que cette poésie, en fait, à ce point charnelle, avec une intelligence sensible, vraiment du ressenti poétique, c'est rare, et ça mérite vraiment plus qu'un détour, quoi.
Oui, mais c'est difficile de citer un seul titre.
Non, mais allez-y, on a encore quelques minutes, vous pouvez en citer d'autres.
Voilà, oui, effectivement, revenir à Panayiotis Istrati pour le redécouvrir, découvrir les romans de Dan Lungu en français, dont Je suis une vieille coco, qui est très rigolo, qui montre qu'on peut rire aussi.
Qu'on peut rigoler avec la littérature roumaine.
Oui.
Alors Laure, vous avez la tournée des traducteurs dont la programmation n'est pas terminée.
Elle est en plein. Oui. Nous avons lancé avec Christina Hermesiou une tournée des traducteurs qui sont ceux qui permettent que la littérature étrangère soit lue en français. C'est quand même important. Donc on a mobilisé, j'ai mobilisé mes collègues et je les fais tourner en France. Donc on a 9 dates. La prochaine occasion de rencontrer des traducteurs roumains qui viennent parler de leur, un peu comme j'ai fait là, de leur coup de cœur. C'est le 15 janvier à Lyon, à la librairie de Citre. Le thème, c'est Couple, la force du destin, et c'est un couple de traducteurs, Floreca Curiol et Jean-Louis Curiol, qui viendront devant les lecteurs parler d'un tas de livres qui ont comme thème central l'amour et le couple. Donc c'est beau. La prochaine occasion, c'est le 25 janvier, ensuite à Strasbourg. Je serai présente là-bas avec mon collègue Nicolas Cavaillès. Et nous, on parlera de la vie à l'Est. Et on parlera d'une belle pléiade d'écrivains. Et notre programme est disponible à la fois sur la saison France-Roumanie et sur un site internet tout simple, latournedestraducteurs.com. Ça dure jusqu'au 5 avril et on ira à Lille, à Blagnac, à Quimper et on terminera par Marseille.
Merci. Bernard, est-ce que vous avez des choses à nous annoncer ? Est-ce que
Je peux rajouter quelque chose ?
Bien sûr.
Je suis tombé sur un bouquin, alors ce n'est pas un auteur récent, c'est un classique du début du XXe siècle, c'est Mihai Sadoveanu. Moi, je l'ai lu parce que, vous savez, dans les années 90, j'ai fait toutes les bouquinistes. Il y avait beaucoup de bouquinistes, de librairies qui avaient des livres en français et j'ai ramené des tas de trucs anciens, des vieilles éditions, etc. Et j'avais lu un roman de Sadoveanu dont le titre, c'était « Sous le signe du cancer », un truc comme ça. Et puis, par hasard, complètement à Montpellier, je vais à la librairie de Montpellier, la grande là, et je tombe sur Mihai Sadoveanu, Le règne du prince Douka. C'est un autre titre, mais c'est le même roman, et je l'ai trouvé. Alors moi, je le conseillerais à ceux qui ont envie d'appréhender un peu l'histoire ancienne de la Roumanie, parce que c'est pas un plaisir, gratuit pour juste se promener dans les temps anciens, parce qu'on comprend la Roumanie d'aujourd'hui avec toute cette histoire. Il y a un film fabuleux, Aferim, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est extraordinaire, sur l'esclavage des Tziganes et la relation entre le boyard et ses... La Roumanie est un pays qui a émergé du servage, mais tardivement, et on peut comprendre un certain nombre de choses de la Roumanie contemporaine quand on va lire des auteurs comme celui-ci. Et là, c'est un auteur qui s'appelle Philippe Préau, qui fait une édition, qui a publié dans une édition ultra détaillée, mais c'est très bien. Et donc, je le conseille, ce bouquin. C'est aux éditions de la rue d'Ulm. Voilà, c'est un peu universitaire, mais franchement, c'est très bien.
On note.
Le signe du cancer, voilà. Donc ça, c'est un peu aussi un coup de cœur, mais il y en a tellement. Hein. Gerasim Luka, Panaïti Stratis, Yoran, il faut y aller.
Je pense qu'on a noté déjà pas mal de choses. Il est bientôt l'heure. Est-ce que, Hugues, vous avez des événements à annoncer dans votre librairie?
Oui, mais alors qu'ils sont assez éloignés de la littérature roumaine, mais effectivement, on reçoit la semaine prochaine un auteur qu'on aime beaucoup, enfin qu'on a déjà reçu souvent chez Carib et qui s'appelle Olivier Martinelli, en fait, dont le nouveau roman sort chez Robert Laffont cette semaine. Et donc, ça sera jeudi prochain chez Carib. Donc, Olivier Martinelli qui, à chaque fois, nous apporte vraiment du bonheur. Donc, voilà, n'hésitez pas.
Alors, sur la Roumanie, le cycle Voyage en Transylvanie au-delà des forêts de Roumanie continue à Grand Control jusqu'au 13 janvier avec plein d'événements, des spectacles vivants, des expositions, des concerts. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Il y a beaucoup de choses. Le 6 janvier, par exemple, il y aura un concert de jazz, swing, samba d'Irina Sarbou avec ses musiciens à 18h. Voilà, il y a des dégustations, il y a des DJ sets, un documentaire le 5 janvier à 18h qui s'appelle Virgo, qui est un documentaire non-verbal, voyage contemplatif et poétique à travers les forêts vierges de Roumanie. Tout cela est très beau mais éphémère, alors que la littérature ne l'est pas. On espère vous avoir donné envie de prolonger cette saison France-Roumanie en lisant les auteurs qui vous ont été conseillés aujourd'hui. Merci Laurine Kell pour votre présence.
Merci à vous.
Merci Bernard Cambouliv.
Oui, pareillement.
Et merci Hugues Robert. Merci pour votre écoute à tous et à très bientôt.
Merci beaucoup Lorraine.
Bonne soirée.
Grand Contrôle. Libre et curieux. Libre et curieux.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.